Après cela, vous serez dans la disposition voulue pour faire un pas de plus, pour demander à Dieu très simplement, très tranquillement, de vous accorder la puissance de son Saint-Esprit. L'Esprit est en Dieu et il est en vous aussi. Ce que vous demandez donc au Père, c'est que l'Esprit qui habite en vous agisse avec plus de force. Demandez-le-lui en vous appuyant sur ses promesses et en obéissant à ses ordres. Ô Père, enseigne-nous, chaque fois que nous allons à toi, à attendre le Saint-Esprit. Et que renonçant à toute sagesse et volonté propre, nous apprenions à nous abaisser toujours plus bas devant toi, afin que ton Esprit puisse agir avec puissance. Oui, enseigne-nous qu'à mesure que nous t'abandonnerons davantage de jour en jour la vie de notre moi, la vie sainte qui a sa source en toi grandira en puissance en nous et que nous pourrons alors t'adorer en esprit et en vérité. Amen. L'esprit de puissance, vous serez baptisé du Saint-Esprit dans peu de jours. Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous me servirez de témoin. Actes 1, 5, 8. Demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, 49. Les disciples de Jésus avaient entendu parler par Jean du baptême de l'Esprit. Ils savaient que la promesse de l'Esprit ne pouvait avoir d'autre but que celui de leur assurer la force voulue pour leur mission après l'ascension de leur Maître. Il est toujours regrettable de laisser perdre une force. La sage distribution de la force est le grand moteur de toute organisation et de toute industrie. L'Esprit est la grande force de Dieu, celle de la rédemption divine. Il descend du trône de Dieu, de celui à qui toute puissance a été donnée. Matthieu 28, 18. Pourrions-nous donc croire que Dieu laisserait perdre cette force divine en l'envoyant à ceux qui ne la demanderaient que pour leur propre satisfaction, la satisfaction de se voir très saint, très sage ou très grand? Certainement non. Le Saint-Esprit est la force qui doit continuer l'œuvre pour laquelle Jésus a sacrifié sa vie. Pour recevoir cette force-là, il est donc absolument nécessaire que nous soyons disposés à faire l'œuvre que l'Esprit est chargé d'accomplir. Vous me servirez de témoin. Quelle source inépuisable de vérité dans ces mots. Rien de plus positif que la parole d'un honnête témoin. Devant lui, l'érudition et l'éloquence de l'avocat doivent se taire pour le laisser parler. Et rien de plus simple aussi, il n'a qu'à dire ce qu'il a vu ou entendu. C'était là ce que faisait Jésus. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 37. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins parce qu'il est lui-même un témoin. L'Esprit rendra témoignage de moi, a dit Jésus. Jean 15, 26. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre disait que Christ remonté au ciel avait reçu du Père le Saint-Esprit et l'avait répandu, il parlait de ce qu'il savait lui-même. Le Saint-Esprit témoignait en lui et par lui de la gloire de son Maître au ciel. Ne faisons pas d'erreur non plus quant à la condition à laquelle cette puissance de Dieu vient agir en nous. Il faut de toute nécessité renoncer à commander et apprendre à obéir. En général, nous voudrions posséder cette puissance divine pour en user à notre gré, tandis que Dieu entend au contraire que ce soit sa puissance qui vienne prendre possession de nous et se servir de nous. Abandonnons-nous à la puissance de l'Esprit pour être conduits par lui et elle nous sera donnée, elle viendra agir en nous et par nous. C'est à la condition de lui être soumis, de lui obéir sans réserve, que nous pourrons la recevoir. Laissez l'Esprit régner en vous, et vous saurez que sa puissance agit en vous. Soyons au clair aussi sur le but de cette puissance divine, sur l'œuvre qu'elle se propose. Dans les affaires de ce monde, les hommes sont très économes de la force dont ils disposent, ils savent très bien la réserver pour la concentrer à propos, sur le point où elle doit produire son effet. De même, Dieu ne nous donne pas sa puissance pour notre seule satisfaction, encore moins pour nous épargner de la peine. Dieu demande des hommes et des femmes qu'ils puissent revêtir de puissance. L'Église les demande aussi de tous côtés. Le monde attend également de les voir paraître pour se convaincre que Dieu est réellement au milieu de son peuple. Des milliers d'âmes qui se perdent appellent la délivrance, et la puissance de Dieu voudrait se servir des croyants pour les affranchir. Que chacun de nous s'adonne sans réserve à vivre comme le témoin de Jésus. Je te demande, ô mon Père, de me faire comprendre qu'aussitôt que j'ai le Christ vivant, je possède la puissance. Puissé-je apprendre à la recevoir avec une foi qui permette au Christ Tout-Puissant de faire son œuvre dans ma faiblesse. Ô, puisse le Saint-Esprit manifester si puissamment en moi la présence de Jésus, Que ce soit lui qui rende témoignage par moi. Ô mon Père, je veux que tout mon être soit soumis à cette sainte puissance. Je veux que tout en moi obéisse à ses lois chaque jour et tout le long du jour. Je veux la servir avec humilité jusque dans les moindres détails. Mon Père, fais régner en moi ta puissance afin que préparé par elle, je sois propre à être employé par elle. Oh, que le but de ma vie soit de rendre honneur et gloire à ton divin Fils. Amen. L'effusion de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler selon que l'Esprit les faisait parler. Acte 2, 1-4, l'effusion du Saint-Esprit est le couronnement de l'œuvre de Christ. L'adorable mystère de l'incarnation divine à Bethléem, la rédemption accomplie au calvaire, la résurrection de Christ, qui nous a révélé en lui le Fils de Dieu, son ascension qui le fit entrer dans la gloire, tout cela n'était qu'autant d'étapes pour arriver à l'effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte est la dernière de nos fêtes chrétiennes et la plus grande de toutes, car elle confirme toutes les autres. Dieu avait fait l'homme à son image, son but était qu'il lui ressemblât, qu'il devint semblable à lui. L'homme devait être un temple où Dieu put habiter, il devait devenir la demeure permanente de Dieu. L'Esprit qui avait habité en Jésus-Christ et qui pendant sa vie d'obéissance s'était si parfaitement uni à son esprit humain qu'il était devenu un avec lui et par là même devenu l'Esprit de Dieu homme. Jésus-Christ homme en entrant dans la gloire de Dieu reçoit du Père le droit de répandre son esprit sur ses disciples ou plutôt de descendre lui-même en eux par l'Esprit et d'habiter en eux. L'Esprit vient alors comme l'Esprit de Jésus glorifié offrant un caractère nouveau inconnu auparavant parce que Jésus n'avait pas encore été crucifié et glorifié. L'œuvre du Fils et la volonté du Père sont accomplies, le cœur de l'homme est réellement désormais la demeure de son Dieu. Nous ne pouvons bien saisir tout cela que si l'Esprit nous en donne l'intelligence. Il nous suggère en particulier les trois réflexions suivantes: ce que l'Esprit doit être pour les croyants et pour l'Église, ce qu'il doit être pour les ministres de la parole et leur œuvre, ce qu'il doit être aussi pour le monde encore incrédule. 1. Christ avait promis à ses disciples que par le moyen du Consolateur il reviendrait lui-même à eux. Pendant sa vie terrestre, sa présence visible leur avait révélé le Père invisible. C'était là le grand don que Dieu avait fait aux hommes. Quand le Saint-Esprit descendit, ils reçurent au-dedans d'eux la vie divine qu'ils n'avaient encore vue qu'auprès d'eux, en dehors d'eux même. C'était l'Esprit même du Fils de Dieu qui devait devenir leur vie, cet Esprit qu'il avait fait vivre, aimer, obéir, mourir et ressusciter, et qu'il avait glorifié par sa toute-puissance. On ne saurait donc s'étonner qu'au moment où le Saint-Esprit fut envoyé de la part du Père, par le Fils glorifié, les disciples les surabondés de joie et de force divine, qu'ils aient réalisé la présence de Jésus, et qu'ils se soient répandus en louanges sur les œuvres merveilleuses de Dieu. Voilà comment naquit l'Église de Christ, voilà aussi ce qui doit la faire croître et la fortifier. Pour qu'elle puisse continuer l'Église de la Pentecôte, il faut que ses membres soient baptisés du Saint-Esprit et de feu. 2. C'est au milieu de l'intérêt et de la curiosité suscité par ce joyeux groupe de croyants que Pierre se leva pour parler. L'histoire de la Pentecôte nous dit ce que doit être le ministère, elle nous donne le secret de sa force. Une Église remplie du Saint-Esprit est une puissance de Dieu qui réveille les indifférents et qui attire tous les cœurs sérieux et sincères. La prédication de Pierre nous offre un exemple remarquable de ce qu'est toute prédication inspirée par le Saint-Esprit. 3. L'effet de cette prédication est merveilleux et pourtant il ne dépasse pas ce qu'on devait en attendre. L'Esprit envoyé aux disciples se sert d'eux pour convaincre ces pécheurs de leur incrédulité. Ils écoutent l'appel à la repentance, ils croient et eux aussi reçoivent le don du Saint-Esprit. La Pentecôte est la glorieuse aurore de ce jour-là, elle est le premier de ces jours-là, Ésaïe 11, 10, Jérémie 3, 18, dont les prophètes et notre Seigneur avaient si souvent parlé, elle est la promesse et le gage de ce que devait être l'histoire de l'Église. Que l'Église retourne à la Pentecôte et la Pentecôte reviendra à elle. L'Esprit de Dieu ne saurait prendre possession de croyants qui manquent de place pour le recevoir. La promesse est là qui attend, l'Esprit est prêt à remplir les cœurs. Il faut seulement vouloir le recevoir. C'est au pied du trône de Dieu qu'on trouve la Pentecôte, c'est en l'attendant là, d'un commun accord dans la prière. Amen. Le Saint-Esprit et les missions. Il y avait dans l'Église d'Antioche quelques prophètes et docteurs. Comme donc ils vaquaient au service du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Séparez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après donc qu'ils eurent jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. Eux donc, étant envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Actes 13:1-4. Le texte cité en tête de ce chapitre nous indique la part que doit prendre l'Église à l'œuvre des missions. La prédication de Philippe à Samarie et celle de Pierre à Césarée nous les montrent vacants au ministère, sous la direction de l'Esprit au milieu d'auditeurs qui n'étaient pas juifs. La prédication d'hommes venus de Chypre et de Cyrène pour parler aux Grecs d'Antioche nous montre déjà l'esprit de vie et d'amour poussant à ouvrir de nouvelles portes là où les chefs de l'Église n'avaient pas encore pensé à aller. Actes 11:20. Grande est l'importance du second chapitre des Actes où nous voyons quelle puissance fut donnée à l'Église pour travailler à Jérusalem, mais le 13e chapitre n'a pas moins de valeur puisqu'il nous montre l'Église choisissant les premiers hommes destinés à l'œuvre des missions. On a souvent observé que toute mission, véritablement bénie, a pris naissance dans un réveil religieux. Quand le Saint-Esprit vient réveiller une église, il appelle les cœurs à se consacrer tout de nouveau au Seigneur et au service de ceux qui se perdent, il invite avec force les rachetés du Seigneur à travailler pour lui. C'est ce qui eut lieu à Antioche. Depuis ce temps-là, le royaume des cieux n'a pas changé de législation. Toujours le Saint-Esprit se charge de l'œuvre des missions. Toujours il fait connaître sa volonté, et quant à l'œuvre à faire, et quant au choix des ouvriers, à tous ceux qui s'étendent au Seigneur et qui se séparent du monde. C'est le Saint-Esprit qui suscite, qui développe et fait prospérer les missions. C'est lui qui fait naître dans le cœur du croyant une vraie compassion pour les âmes qui se perdent, ainsi que la foi aux promesses et l'obéissance aux commandements reçus. C'est lui qui appelle les croyants à réunir leurs efforts, qui décide les missionnaires à partir, qui ouvre les portes et qui prépare le cœur des païens à désirer et recevoir la parole de Dieu. C'est lui aussi qui fait prospérer l'œuvre, qui plante la croix là où Satan règne et qui réunit autour d'elle les rachetés du Seigneur. Après qu'ils eurent jeûné et prié, ils les firent partir. Eux donc étant envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Leur départ était donc à la fois l'œuvre de l'Église et l'œuvre de l'Esprit. Voilà la position normale. Heureuse l'Église qui se laisse guider par l'Esprit, heureuse la mission qui a été inspirée par l'Esprit et qui attend de lui seule lumière et bénédiction. 10 jours de prière et d'attente, et alors l'Esprit descendit en langue de feu, voilà comment naquit l'Église à Jérusalem. Vaquer au service du Seigneur et jeûner, et encore jeûner et prier, et l'Esprit désigna Barnabas et Paul. C'est ainsi que l'Église devint à Antioche une Église missionnaire. Après avoir attendu au pied du trône de Dieu et avoir reçu le baptême de l'Esprit, les premiers disciples se mirent en route pour Antioche, là ils s'arrêtèrent, jeûnèrent et prièrent pour être ensuite envoyés à Rome, et bien au-delà encore. Apprenons de le secret de leur force. Que tout ami des missions, que tout ouvrier dans le champ des missions, commence donc par chercher à être rempli de l'Esprit divin. L'affranchissement de l'Esprit. La loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. Romains 8:2-13. Dans le 6e chapitre de l'Épître aux Romains 6:18-22, Paul parle de notre affranchissement du péché en Christ. Notre mort au péché en Christ nous affranchit de la domination du péché. Quand nous avons reçu Christ par la foi, nous avons été affranchis de la domination du péché qui n'est plus notre maître, et par là même nous sommes devenus esclaves de la justice. Dans le 7e chapitre 7:1-6, il parle de notre affranchissement de la loi. La force du péché vient de la loi. La délivrance du péché et de la loi vont de pair. Délivrés de la loi, nous sommes devenus un avec Christ, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau. 7:4-6. Dans ces deux chapitres, Paul présente l'affranchissement du péché et de la loi comme une réalité qui nous est offerte en Christ et que nous devons recevoir et conserver par la foi. Malgré cet enseignement, la plupart des croyants constatent que leur vie n'est pas encore ce qu'ils voudraient. Ils éprouvent avec douleur la vérité de l'expérience retracée dans la seconde moitié de Romains 8, et s'il en est ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'amener le croyant à comprendre de grandes vérités, qu'il a besoin de saisir d'abord l'entière incapacité de la volonté humaine à produire et pratiquer la justice divine, à observer la loi de Dieu, qui lui enjoint l'obéissance, et ensuite l'absolue nécessité de recevoir en lui le Saint-Esprit, seule force capable de faire marcher l'enfant de Dieu. C'est cette dernière vérité que nous enseigne la première moitié de Romains 8. La vie chrétienne telle qu'elle se développe chez le croyant et telle que Paul la décrit dans cet épître offre divers degrés d'avancement. Les chapitres 6 et 7 décrivent la vie de la foi, le chapitre 8 mentionne pour la première fois le Saint-Esprit et nous enseigne que c'est seulement quand il entre en nous, quand nous le recevons pour qu'il nous vivifie et nous fasse marcher, que nous pouvons jouir pleinement des richesses de grâce qui sont à nous en Christ. Que tous ceux donc qui veulent savoir ce que c'est que d'être mort au péché et vivant pour Dieu, ce que c'est que d'être affranchi du péché et de la loi et d'être un avec le Christ ressuscité, étudie ce qui nous est dit ici du Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait éprouver la réalité de notre union avec Christ, c'est lui qui nous fait vivre de la vie de Christ, en effet et en vérité. Dans ce chapitre 8, le second verset nous dit comment nous pouvons réaliser habituellement notre affranchissement du péché et de la loi. Le croyant peut reconnaître théoriquement son affranchissement, et pourtant se sentir encore esclave du péché, quant à sa vie pratique. Nous ne pouvons jouir de cet affranchissement qu'en Jésus-Christ, qu'en restant continuellement unis à lui, ceci est si complètement l'œuvre de Dieu en nous, qu'il faut pour réaliser cette liberté, que l'Esprit de Dieu habite en nous et que nous consentions à le laisser agir. La vie et la liberté décrites dans Romains 6 et 7, 1-6 deviennent pleinement notre expérience, que lorsque nous pouvons dire la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, comme pour toute notre vie chrétienne, tout dépend de ce principe divin, qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Dès que le Saint-Esprit, l'Esprit de foi, nous fait comprendre la puissance de la vie de résurrection qui agit en nous, dès que nous croyons à la présence et à la puissance de l'Esprit en nous, tout ce que Jésus-Christ est pour nous vient se réaliser dans notre expérience de chaque jour. Nous éprouvons alors que le Saint-Esprit nous rend possible la vie de liberté, que nous possédons en Jésus-Christ, et que l'assurance d'avoir en nous le Saint-Esprit nous est indispensable, pour vivre d'une vie nouvelle. Romains 6, 4. La loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oui, il y a un affranchissement de la loi, de la domination du péché et de la mort, qui est dans les membres, et cet affranchissement est une loi nouvelle, une force supérieure, une puissance effective, qui délivre du péché. La puissance de l'Esprit, qui demeure en nous est tout aussi réelle, tout aussi active, et bien plus encore, que ne l'était auparavant la force du péché dans nos membres. C'est l'Esprit de vie qui se trouve en Christ. La foi de l'Esprit de vie régnait alors dans nos membres, avec tout autant de réalité, de puissance et de spontanéité, que régnait auparavant la loi du péché. Le croyant qui voudrait vivre pleinement de cette vie d'affranchissement en Christ, comprendra facilement quelle est la voie qu'il doit suivre. Romains 8 est le but auquel devait l'amener Romains 6 et 7. Il devra donc commencer par étudier et croire ce que ces deux chapitres lui disent de sa position, en Christ mort au péché et vivant pour Dieu, délivré du péché et de la loi et uni à Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 31. Que tout ce que la parole de Dieu vous enseigne de votre union avec Christ, soit pour vous la source habituelle de votre foi et de votre vie, demeurez en Christ et Christ demeurera en vous. Méditer et tenir ferme cette parole, la serrer dans son cœur, se l'assimiler avec foi et patience, c'est là le moyen de s'élever plus haut et d'atteindre chacune des vérités qu'enseigne l'Écriture. La loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est là le salut par la sanctification de l'Esprit, auquel Dieu vous a appelé de THES. 2, 13. Nous marchons par la foi à 2 Corinthiens 5, 7. Souvenons-nous en tout particulièrement quand il s'agit de marcher selon l'Esprit. C'est ici plus que jamais que nous avons besoin de nous souvenir de ces mots « crois seulement ». Marc 5, 36. Croyez au Père et à ses promesses. Croyez au Fils, croyez que sa vie est à vous, que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 8. Croyez à l'Esprit, croyez qu'il vous apporte et vous assimile la présence et la vie de Jésus. Croyez qu'il est déjà en vous. Croyez en sa puissance et sa fidélité pour faire son œuvre en vous d'une manière divine au-delà de toute conception. Amen. Conduit par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romains 8, 14. Le Saint-Esprit est le même Esprit qui a produit en Jésus-Christ une vie sainte et qui vient à présent agir en nous avec sa puissance de vie divine. Il est l'Esprit de sainteté, Romains 1, 4, et c'est comme tel qu'il veut nous conduire. C'est par lui que Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, Philippiens 2, 13. C'est par lui qu'il vous rend accompli en toutes sortes de bonnes œuvres, pour faire sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui lui est agréable.